Mesdames, messieurs, bonjour. Sébastien Saint-Pierre avec vous dans cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui, à l'animation, M. Yannick Patelli et M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour Michel d'être avec nous quotidiennement. Et nous recevons un de tes collègues, également sous-ministre MAPAC, Marc Dion, que vous avez découvert maintenant depuis quelques mois dans les pages de la vie agricole, puisqu'il chronique chez nous. Merci Marc Dion d'être pour cette deuxième fois, la deuxième participation dans une quotidienne. On espère vous avoir longtemps cette année avec nous, parce que c'est toujours enrichissant. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire de l'agriculture. Et on va parler aujourd'hui d'ailleurs du texte qui sort ces jours-ci dans le numéro du mois d'avril sur Adélard Godbout. Adélard Godbout qui a été ministre de l'Agriculture et Premier ministre du Québec 1930-1936. Mais avant de rentrer dans les détails d'Adélard Godbout, de son histoire, on va faire une mise en contexte, parce que 1929, c'est la crise économique, c'est l'inflation, donc ça nous rappelle des choses actuelles, mais je pense que c'était un petit peu pire en 1929 que ce qu'on vit actuellement. Alors, peut-être nous replonger dans les années 20, Marc Dion, s'il vous plaît.
Oui, écoutez, bonjour d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous deux.
Bonjour Marc.
Écoutez, Adélard Godbout, c'est d'abord un visionnaire, hein? Et puis il y a quelque chose qui le caractérise à deux égards. D'une part, il a été premier ministre et ministre de l'Agriculture. C'est déjà arrivé à d'autres, mais c'était plutôt au 19e siècle. Mais dans le 20e siècle, c'est le seul. Et puis l'autre partie de l'équation, c'est qu'il a été ministre de l'Agriculture pendant la Grande Dépression, puis il a été ministre de l'Agriculture et premier ministre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, les deux des grandes, appelons ça catastrophes, du 20e siècle, était là quand Godbout était élu et était en charge de l'agriculture. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire là, comme remarque, comme point de départ, pour se situer un peu dans le contexte. La Grande Dépression, bien évidemment, en 1929, vous l'avez bien rappelé, en 1929, le krach boursier, tout le monde est conscient de ça, sauf que ça a marqué beaucoup, toute une génération de personnes. Moi, je me souviens d'avoir connu des gens qui ont vécu cette période-là puis qui en parlaient avec beaucoup d'émotion parce que c'était des temps difficiles. Écoutez, en 1932, pour vous donner juste un petit chiffre, là, y a le taux de chômage mesuré à l'époque, il faut faire attention, c'était pas mesuré comme aujourd'hui, c'était mesuré auprès des gens syndiqués, mais ça atteignait 26,4% chez les syndiqués. Alors, c'était incroyable. Depuis cette époque-là, jamais le Québec n'a connu un taux de chômage aussi élevé. C'est jamais arrivé. Alors, ça donne une idée de l'ampleur de cette crise-là. Et il faut ajouter l'autre chose, c'est que la crise économique a frappé très dur tout le monde, mais elle a frappé plus difficilement en ville qu'en campagne. Mm-hmm. Pourquoi? Pas parce que les gens avaient plus de travail en campagne, mais parce qu'il y avait plus d'agriculteurs en campagne. Tout le monde avait une petite ferme. Alors, même au village, dans cette époque-là, les gens du village, dans plusieurs maisons, avaient une petite vache qui allait porter au champ d'un voisin pour la faire paître, puis qui gardait dans un petit coin dans leur cour arrière. Alors, à la campagne, on gardait des poules, on mangeait.
Il y avait une autonomie alimentaire naturelle, en fait.
Un peu, mais plus développé en campagne, mais pas à la ville. Parce qu'à la ville, bien, on l'a vu précédemment, on avait dit à partir de 1921, le recensement disait la population urbaine dépassait la population rurale. Donc déjà en 1932, ça avait progressé cette affaire-là. Il y avait beaucoup plus d'urbains que de ruraux. À la ville, c'était terrible. Et les programmes de soutien pour les gens qui étaient au chômage à cette époque-là, il n'y en avait à peu près pas. Non. Alors, on a inventé ce qu'on a appelé le secours direct, on a inventé toutes sortes de petites choses, mais c'était pas vraiment organisé, puis c'était pas structuré.
C'est des soupes populaires au départ,
oui, hein, je pense, qui a été... Absolument.
Oui, parce que nous, on vit dans un monde un peu surprotégé en Occident, puis au Québec aussi, depuis la Révolution tranquille, entre autres, on vit dans un monde confortable, on va dire, jusqu'à certains points. Mais vous dites dans votre texte, d'ailleurs, que vous parlez d'Adélard Godbout, qu'il était précurseur de la Révolution tranquille. Dans quel sens? Qu'est-ce qu'il avait capté, lui, pour...
Ah oui. Bon, je vais reprendre votre mot, parce que moi, je dirais pas confortable, mais organisé. Je changerais ce mot-là, parce qu'il y a des gens qui sont pas confortables, même encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore pas des soupes populaires, mais des distributions d'aliments.
Oui, tout à fait.
Des banques alimentaires.
Des banques alimentaires.
Ouais, très important. Donc, on est organisé beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est certain, puis on laisse moins les gens dans des situations d'indigence extrême. Enfin, il y en a, mais c'est moins à cette époque-là. Bon, qu'est-ce qui distingue Godbout maintenant dans ça? Ben, pourquoi qu'on dit que c'est un précurseur de la Révolution tranquille? Des lois sociales quand il a été premier ministre. Ça, il a été ministre de l'Agriculture d'abord, de 1930 à 1936. Il a été premier ministre deux mois, 36-37, à peine. Là. Et puis après, en 1939, il a repris le pouvoir jusqu'à 1944. C'est le seul premier ministre à avoir défait Maurice Duplessis, parce qu'après, Maurice Duplessis est décédé avant d'être défait électoralement.
En 1959.
Oui, exactement. Mm-hmm. Alors, mais maintenant, pour revenir à votre question de façon précise, des lois sociales extrêmement importantes. Exemple, le vote des femmes. Écoutez, au fédéral, là, on avait le droit de voter depuis, je pense, c'est 1917-18, de façon plus limitée, par exemple. C'était pas généralement ouvert, mais il fallait être d'origine britannique. Il y avait des règles. Mais il reste qu'il y avait du vote des femmes déjà depuis très longtemps. Ailleurs, le Québec était la dernière province à ne pas avoir accepté le vote des femmes. C'est incroyable. Et pire, la terre de chez nous se prononçait contre. Et pourquoi? Il faut faire attention, il ne faut pas faire des procès sans situer ça. C'est que l'Union catholique des cultivateurs, ça s'appelait comme ça à l'époque.
Qui était propriétaire du journal.
Oui, et qui était aussi encadré par des religieux. Alors, les religieux, la religion catholique se prononçait contre le vote des femmes. Monseigneur Villeneuve était contre, et puis comment Godbout a convaincu Monseigneur Villeneuve de ne pas se prononcer contre trop fort à la fin, parce qu'il se prononçait contre, vraiment, bien, c'est simplement quand il l'a menacé de démissionner et de confier ses responsabilités au député de Saint-Hyacinthe qui s'appelait Télesphore Damien Bouchard. Et M. Bouchard était reconnu comme un anticlérical. Alors, le Cazeneuve ne voulait pas l'avoir là, dans ses affaires.
Teddy Bouchard, qu'on appelle.
Oui, Teddy, exactement.
Il y a une rue qui porte son nom.
Oui. Exactement, c'est bien lui. Mm-hmm. Alors, c'est une figure politique très connue, puis très forte d'ailleurs, à l'époque. Alors, c'est comme ça que Godbout a eu un peu, sans dire l'appui de l'Église, il n'a pas eu, mais il a pu réussir à faire adopter son projet de loi, et ça faisait des lustres que il y avait des mouvements pour les femmes et tout ça. Donc, il a fait approuver cette législation-là très progressiste.
L'Église, quand on dit que l'Église emmenait large, c'est que autour de l'Église, tout avait été formé. Le syndicalisme avait été formé là, le coopératisme avait été formé là. Les caisses populaires s'étaient nées dans le sous-sol des églises. C'était l'Église était l'animateur social de partout, du village.
Sans compter les écoles et les hôpitaux.
Et sans compter les écoles et les hôpitaux. Donc, la raison pour laquelle l'Église avait... Quand l'Église pensait quelque chose, généralement, ça passait comme ça.
Oui. Deuxièmement, les lois du travail. Il a fait adopter une législation du travail absolument, pour l'époque, très moderne, où il a permis... Ça, c'était... Duplessis n'aurait jamais fait ça. Il a permis la syndicalisation des travailleurs et la négociation de conventions collectives de travail. Ça, là, écoutez, c'est incroyable parce que c'est des mécanismes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus parce qu'il a traduit ça un peu en agriculture quelque part. On va revenir sur cette question-là. Les écoles, ils croyaient à la formation. C'était un agronome, premièrement. On n'a pas mentionné que c'était un agronome. C'était le premier à être ministre de l'Agriculture et à être agronome. Et M. Godbout, il a fait une chose incroyable. Il a obligé l'éducation jusqu'à 14 ans. Alors, la fréquentation scolaire est devenue obligatoire jusqu'à 14 ans, ce qui était une petite révolution en soi. Alors, c'est des grands, grands gestes très, très importants. Il a fondé Hydro-Québec. Contrairement à ce qu'on pense, que c'est la Révolution tranquille de Jean Lesage qui a fondé Hydro-Québec. Non, Hydro-Québec existait. C'est Godbout qui l'a fait. Il l'a fait justement en nationalisant trois compagnies d'électricité à Montréal. Alors, ça aussi, après, évidemment, le gouvernement Lesage a donné de l'empennage à cette affaire-là qu'on connaît au Québec d'aujourd'hui. Et l'autre chose que je dois ajouter sur la question de l'électricité, c'est que l'électrification rurale, on l'attribue à Duplessis avec raison. Mais Godbout avait adopté une loi sur l'électrification rurale. Il a perdu le pouvoir tout de suite après. Et donc, il n'a pas pu donner suite. Il avait débloqué 10 millions. Il avait fait des gestes. Puis il voulait confier ça à Hydro-Québec. Pour les secteurs, parce que l'électrification rurale, c'était pas n'importe quoi, c'était pour les secteurs qui n'avaient pas une population suffisante pour justifier l'investissement public que ça demandait pour installer les infrastructures électriques nécessaires.
Et au 20e siècle, donc c'est le seul qui a été à la fois ministre de l'Agriculture et Premier ministre.
Oui.
Qu'est-ce que ça apporte de plus à une société, finalement, que finalement le Premier ministre prenne la charge de l'agriculture? Est-ce que ça donne plus de lumière à l'agriculture? Est-ce que ça donne plus de réalisation?
Écoutez, Je pense qu'il a été premier ministre et ministre de l'Agriculture au moment où il y a eu la guerre. Il faut faire attention. Donc, l'effort de guerre, puis tout le virage de l'industrie. Cependant, ça lui a permis de prendre un certain nombre de décisions qui étaient aussi liées à la guerre et à l'agriculture. Par exemple, développer la culture du lin pour fabriquer des vêtements de soldats. Ça paraît curieux pour nous aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était terriblement important parce qu'il fallait qu'on fournisse des intrants pour faire la guerre. Le développement de marchés en Angleterre pour alimenter justement l'effort de guerre en Europe. Alors, la vente de porc, la vente de beurre, la vente de fromage en Europe, il a travaillé très fort pour essayer d'arriver à faire des débouchés là-bas.
Il a une vision économique
extraordinaire. Assez large. Oui. Il était en avant de son temps. Je pense que on ne peut pas se cacher de cela. C'est un homme qui était nettement en avant de son temps parce que, il avait étudié aux États-Unis, ça c'était pas commun non plus. Là. C'était un agronome, il avait enseigné à l'Apocatière, il était enseignant à l'Apocatière, il avait étudié à l'Apocatière, mais il avait complété ses études aux États-Unis, et puis il était revenu enseigner à l'Apocatière. Mais il était donc quelqu'un qui avait une vision plus avancée que la moyenne de la société québécoise de son époque. Je pense qu'on peut facilement avancer ça. C'est un avant-gardiste, un progressiste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Mm-hmm.
Donc, je trouve ça très intéressant.
Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, donc, au-delà du lin, ces choses-là, il a fait développer une usine, l'usine de Saint-Hilaire pour la betterave sucrière, transformation de la betterave sucrière. Il a ouvert les débouchés, le fromage et tout ça, mais aussi, il a créé 20 districts agronomiques. Il croyait à l'agronomie, mais il croyait à l'agronomie organisée. Et régional, parce que quand on fait 20 districts agronomiques, là, il était vraiment en avance son temps, parce que Duplessis a tout défait ça. Pour revenir, je ne parle pas du sucre, je parle de l'agronomie, pour revenir à quelque chose de plus agronome de comté, moins structuré. Oui, pas de perspective régionale, pas de perspective pour dire, bien, chez nous, on devrait plus s'orienter vers telle chose par rapport à l'autre chose. Vous savez, l'agriculture dans le Bas-Saint-Laurent, puis l'agriculture au sud de Montréal, je pense qu'on peut discuter, surtout à cette époque-là, où on était moins organisé, bien, je pense qu'on pouvait quand même la considérer et l'organiser un peu autrement pour être adapté aux conditions de production.
Vous avez étudié à l'Université Cornell?
Je crois que c'est Cornell, oui. Il me semble que c'est ça.
À l'époque, encore aujourd'hui, c'est une université...
Très connue.
Très connue, très importante en agriculture, en agronomie, pour laquelle beaucoup de nos gens, nos confrères, ont fait leur maîtrise ou leur doctorat à Cornell. Alors,
oui.
C'était dans l'État de New York, donc c'est pas très loin. Déjà, je pense que... On peut dire qu'il allait, il y avait une pensée structurée, capacité analytique que pas tout le monde avait. Là.
Tout à fait. Tout à fait. Il n'y avait pas non seulement une formation supérieure à la moyenne, bien au-delà de même de ses collègues professeurs à l'ITA à l'époque. Mm-hmm. Ça, c'est très clair. Alors, effectivement, c'est un homme probablement d'une intelligence assez exceptionnelle. Et qui, parce qu'il est arrivé en politique en 1929, il est devenu ministre de l'Agriculture en 1930.
Et de par ses études aux États-Unis, il avait un périmètre de vision assez large.
Beaucoup, aussi, beaucoup, beaucoup plus large que la moyenne. Oui, absolument. Ça lui aidait beaucoup, beaucoup.
Alors, Marc et Michel, on vous remercie beaucoup. Vous restez avec nous. On va en une courte pause et on revient tout de suite après pour parler d'Adélard Godbout à nouveau.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Houde peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Houde et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhoude.com.
La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Bon retour dans la quotidienne, nous sommes aujourd'hui avec Michel Saint-Pierre bien entendu et avec Marc Dion qui est notre invité également sous-ministre au MAPAC, ex-sous-ministre au MAPAC et nous l'avons avec nous comme chroniqueur puisque vous suivez maintenant ses chroniques sur l'histoire de l'agriculture du Québec. Ce mois-ci, il nous parle d'Adélard Godbout et dans votre texte, en parlant d'Adélard Godbout, d'ailleurs pour parler vraiment d'agriculture, vous parlez en fait de la période, en fait de la naissance de la régie des marchés
oui.
Que l'on connaît aujourd'hui et dans votre texte, j'ai lu, vous disiez en fait que beaucoup de gens réfèrent ça aux années 50, en disant ça a été créé là par Laurent Barré.
Oui.
Mais finalement, vous dites non, ça existait bien avant, parce que dès 1934, Adélard Godbout avait déjà mis les bases de tout ça. Expliquez-nous.
Oui. Il y avait une grande difficulté à l'époque, c'était le lait nature. Le lait, premièrement, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le lait est unifié. Un producteur laitier vend son lait, puis bon, tout le monde est dans les mêmes conditions. Mais à l'époque, on distinguait clairement la vente du lait pour la consommation, le lait frais, du lait pour la transformation. C'était deux mondes. Et il y avait deux sortes de réglementations, d'ailleurs, qui s'appliquaient à cela. Et les entreprises laitières qui faisaient du lait nature avaient une sorte d'obligation aussi de produire du lait en hiver, de fournir des marchés toute l'année. Ce que les producteurs de lait de transformation n'avaient pas. D'ailleurs l'hiver, le lait de transformation, ça ne fonctionnait à peu près pas. Là. Donc, c'était deux mondes. Et les conditions aussi de conservation du lait à la ferme, puis de salubrité de l'entreprise, etc. C'était vraiment très, très différent. Et les marchés laitiers étaient difficiles. On a parlé de la crise économique, ça n'aidait pas, évidemment. Mais il y avait quand même des tensions entre les acheteurs puis les vendeurs, les agriculteurs. Et Laurent Godbout a donc fait une loi qui a créé, si on veut, l'origine elle-même de ce qu'on connaît de la régie des marchés agricoles aujourd'hui, mais ça s'est appliqué seulement dans le secteur du lait nature. Il faut faire cette distinction-là, elle est très importante. Et sauf qu'il a permis que les producteurs se regroupent pour vendre ensemble leur lait à un groupe de transformateurs dans des conditions prédéfinies. Et il a créé une commission qui était chargée de gérer ces questions-là, autrement dit d'auditionner les personnes, puis de s'assurer que les personnes essaient de s'entendre, ou sinon d'arbitrer les litiges. Comme le fait un peu, les règles ont changé, la loi a changé, ça a évolué, mais l'origine de notre régie des marchés agricoles aujourd'hui, c'est Godbout qui l'a créé et ça va faire 90 ans l'an prochain. Mm-hmm. Alors, on a souvent attribué ça à M. Barré parce que M. Barré a fait aussi une loi là-dessus pour permettre d'ouvrir à d'autres secteurs. Et encore là, c'était une ouverture minimaliste encore. C'était pas la grande ouverture. Ça a été beaucoup plus tard, sous Jean Lesage, que là, il y a eu des changements à la législation, puis des lois sur la mise en marché des produits agricoles, là, pour la régie des marchés agricoles. Il y en a beaucoup qui ont été amendés, là, avec les années. Donc, oui, mais l'origine, vraiment, elle est là. Alors, c'est une erreur quand on pense que l'origine de la régie des marchés agricoles était dans les années 50, sous Laurent Barré.
Alors, beaucoup de choses, finalement, prennent naissance sous le pouvoir d'Adélard Godbout. Adélard Godbout, qui a été député libéral dans l'Illet, qui a été aussi professeur à l'ITAC, parce qu'en fait, pour les gens qui passent à la Pocatière de temps en temps, en fait, il y a l'Adélard Godbout, il est comme reconnu en fait dans le monde de l'agriculture parce qu'il était agronome, parce qu'il était ministre de l'Agriculture et parce qu'il a été Premier ministre. En fait.
Oui, et puis l'édifice de l'ITAC, l'édifice principal à la Pocatière, porte son nom. Ça, c'est Claude Béchard quand il a été ministre de l'Agriculture, qui a justement fait en sorte que l'édifice soit officiellement reconnu par la Commission de toponymie du Québec et le gouvernement du Québec, avec un nom. Et il y a 11 lieux qui portent le nom d'Adélard Godbout, des rues, un poste électrique, un pont, plein de choses, un parc. Donc,
il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, il y en a qui attendent encore.
Oui! Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai trouvé deux rues, je pense, pour Laurent Barré. Mais j'ai défié M. Garon, j'ai rien vu encore.
C'est à lui que je pensais.
je sais qu'il y a un débat là-dessus sur la rive sud de Québec.
Il y a un travail qui s'est fait, en tout cas.
Je sais qu'il y a un débat là-dessus sur la rive sud de Québec, mais enfin, bon, un jour, les gens vont s'entendre sur quelque chose, j'imagine.
Assurément.
Mais il y a une chose étonnante, parce que M. Garon, avec ce qu'il fait, on y reviendra quand on parlera de Jean Garon, mais par exemple, l'édifice de Saint-Chemin-Sainte-Foy pourrait
Mais vous dites ça, mais il y a un travail qui a été fait autour de ça. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de 100 chemins Sainte-Foy, si Simon Bégin était là, il pourrait nous en parler. Parce que je sais que la famille Garon a travaillé sur ce dossier-là. En tout cas, c'est un peu tombé à l'eau.
Peut-être prendre le temps.
Peut-être un jour.
C'est ça, faut que ça prenne. Récemment, l'édifice d'Aude Castonguay, qui est celui
qui vient de se faire.
Ça prend un certain temps.
Ça prend un certain temps. Mais je trouve intéressant dans le cas de l'Adélard Godbout, c'est que. Je pense que longtemps, il est passé un peu en dessous
oui,
du radar.
Absolument.
Il y a des gens qui ont. D'ailleurs, je crois que c'est son neveu qui est cinéaste.
Oui. Jacques Godbout. C'est pas son neveu, son petit-neveu.
Son petit-neveu.
Oui.
Son petit-neveu.
Oui.
Qui a fait un document sur son grand-oncle.
Un documentaire filmé.
Filmé, oui.
Oui, qui s'appelle Traite ou Patriote.
Ah oui.
Oui. Et pourquoi Traite ou Patriote? Ah, là, on peut venir sur quelque chose d'assez intéressant, par exemple. Au moment de la guerre, Godbout, quand il a été élu en 1939, il avait promis que son gouvernement ne supporterait pas la conscription. Ça, c'est un débat terrible au Québec. Mais plus tard, le fédéral... d'ailleurs, il avait été élu, il faut le dire, avec, entre guillemets, ses amis du fédéral, Mackenzie King en tête, qui était le premier ministre canadien à cette époque-là, et puis son lieutenant québécois, Ernest Lapointe. Alors, eux autres avaient fait une campagne très forte, puis avaient mis tous les organisateurs derrière Godbout pour qu'ils battent Duplessis, ce qui est arrivé, en disant qu'il n'y aurait pas de conscription. Et un peu plus tard, ben, ils ont fait un plébiscite, référendum, entre guillemets, pour dire... Puis là, le plébiscite a été majoritairement en faveur de la conscription dans le reste du Canada, mais pas au Québec. Mm-hmm. Au Québec, était majoritairement contre la conscription. Alors,
Godbout l'a appuyé quand même.
Il l'a appuyé. Et les observateurs disent que, un, c'est ça qui a fait perdre son élection de 1944, parce qu'il y a eu la majorité des voix, mais pas la majorité des sièges, comme c'est arrivé à d'autres dans l'histoire. Oui, oui. Mais les gens disent que c'est ça qui a fait qu'il a perdu ses élections. Je suis prêt à le croire. Et je pense que il a supporté l'effort de guerre. Dans son film, Jacques Godbout, ce qu'il en dit, c'est qu'il dit... C'est pour ça qu'il parle de traître ou patriote, parce qu'il dit, est-ce qu'il a été un traître parce qu'il a appuyé la conscription, ou si c'était un patriote parce qu'il voulait défendre les valeurs occidentales? Parce que ça dépend comment on regarde ça. Si on regarde ça à l'image d'aujourd'hui, l'effort de guerre que nous faisons présentement avec l'Ukraine, c'est quoi? C'est pour défendre les valeurs occidentales. Alors, à cette époque-là, les mêmes valeurs étaient en cause, sauf que aujourd'hui, on ne parle plus de la conscription de nos soldats. Hein, ici, aujourd'hui, pour l'Ukraine. Mais il reste que c'est la même base de phénomène.
Oui.
Alors, ça dépend comment on l'interprète. Était-il un traître ou un patriote? Là, on peut discuter très longtemps. L'autre phénomène donc, dont on a parlé, c'est sa statue. Il y a une statue derrière le Parlement de Québec. Oui. Ici, derrière l'édifice de l'Assemblée nationale, sur le parterre. Pas très loin de celle de Duplessis.
Oui, c'est vrai.
Duplessis est du côté de la Grande Allée. Lui est plus en arrière. Mais effectivement, c'est pas si loin que ça. Quoique, il y a beaucoup de statuts de premier ministre dans ce périmètre-là. Là. Et donc, ça aussi, je pense que ça mérite d'être mentionné, que Godbout a du statut quand même. C'est pas rien. Et, il avait une ferme, ça je l'ai pas mentionné, il avait une ferme à Frélixburg. Alors, ça c'est assez important, ouais. Et c'est là qu'il est enterré, d'ailleurs.
Ah bon.
Ouais.
Donc c'est assez loin quand même de la circonscription qui représentait. Hein,
ouais. Parce que là, oui, tout à fait.
On était dans le sud de Montréal.
Oui, complètement, à l'opposé au Québec. Ouais.
J'allais dire une des choses desquelles je reviendrai, c'était l'effort de guerre quand même qu'on a fait dans cette époque-là. Là. Parce qu'effectivement, on était réputé pour produire, par exemple, du fromage cheddar
et
l'exporter. Donc, la mère patrie qu'on n'avait pas voulu tant que ça défendre, parce que c'est un peu le côté anti-conscription.
Oui, oui.
On disait que l'Angleterre, c'est pas notre patrie à nous.
Exactement.
C'est là que la guerre sévissait le plus. Alors que le reste du Canada, plus royaliste un peu, disait, nous autres, il faut aller sauver la mère patrie. Donc, on n'a pas la même mère patrie, nous. Puis comme la France, c'était, je pense, déjà pas mal réglé.
En partie, dans le sens que Pétain avait cédé tout le Nord.
C'est ça.
Puis il y avait la ligne de Vichy, qu'on appelait à l'époque.
C'est ça.
Mais la France était divisée, était complètement séparée, et puis la France a souffert énormément.
Ah oui, parce que l'histoire a prouvé que Vichy n'était pas la solution.
Et non, justement. Et ça, Godbout dit que son grand-oncle était plutôt très sensible à la question française, parce qu'il aimait la France, et puis que ses racines, lui, il considérait qu'il fallait défendre ses racines, puis que c'était pas seulement la Grande-Bretagne qui était en cause. C'est là tout le débat de l'époque.
Tout le débat.
C'est un débat extraordinaire.
Puis même ce qu'on me racontait, puis ce qu'on a pu lire aussi, c'est que le Québec était assez sympathique à Adolf Hitler au début. Là. C'était,
il y avait des factions.
Et à Mussolini, là, qui était bon.
Il y avait des factions.
Le fascisme était au Québec assez bien vu. Là. Bon, c'était pas mal. Il y avait des factions.
Il y en avait, oui.
Donc, c'était pas genre tout le monde est noir.
Non, tout le monde est blanc. Pas du tout.
Ça pourrait expliquer aussi en partie pourquoi la conscription a été, en fait, le vote était négatif au Québec et partout ailleurs, il était
positif.
Il était positif. Alors, c'était un peu cette histoire-là.
C'est un peu une réaction de coloniser, je pense, ce qu'on peut dire, parce que quelque part, derrière tout cela, c'était de dire, écoutez, la Grande-Bretagne, là, nous, on a choupé un petit peu, puis c'est pas notre affaire. Mais alors que le débat n'était pas celui-là, il fallait regarder ça plus globalement.
Et le Québec a toujours un peu aimé l'autorité, quand même.
Oui.
Le Québec a toujours un peu aimé l'autorité,
quand même.
Mais quand on regarde un petit peu les gens qui ont dirigé le Québec, il y a quand même toujours un petit peu d'autorité derrière.
Ben, l'autorité de l'Église, à cette époque-là, l'autorité
de Duplessis.
On cherche des leaders forts, effectivement. Duplessis est un bel exemple de l'autorité.
Ça, avec les avantages et inconvénients qu'il y a là-dedans.
Exactement. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous lire, Marc Dion, parce que c'est vraiment vivant, vos textes. Je vous invite vraiment tout le monde à lire dans La Vie agricole les textes de Marc Dion. Très vivant, vous voyez, puis les chroniques le sont encore plus. Merci beaucoup de venir nous voir régulièrement comme ça. On va continuer à vous recevoir. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup.
Merci, Marc.
Bonne journée, tout le monde.